We'd like to greet everybody this morning.
Nous voulons saluer chacun ce matin. Si vous venez du quatre coins du monde ou du KwaZulu-Natal qui est très froid, nous avions de la neige pas très loin d'ici, à différents lieux, près de Pietermaritzburg. Ils disent que c'était comme un conte de fées. Il y a différentes saisons. Et ainsi en est-il que nous, dans nos vies, nous avons également différentes saisons. Si parfois tu attends du soleil et d'un coup il neige, ouh, votre monde s'écroule. Mais en tant que fermier, paysan, tu travailles à l'avance, tu penses, tu as des animaux, tu travailles à l'avance, tu penses et tu t'assures qu'ils se retrouvent en bon état ou que tout aille bien. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Il prend soin de ce qu'il a reçu de tout son cœur. Quand je suis venue à la mission dans les débuts des années 80, une des premières choses, c'est qu'il m'a été donné une voiture de laquelle je devais prendre soin. Il m'a dit, dites-moi, ça c'est ta voiture et toi tu t'en occupes. Et quel effort n'a-t-il pas été mis pour prendre soin de cette voiture, qu'elle soit en bon état, à l'intérieur, propre, à l'extérieur. Tu lavais cette voiture même deux fois par jour parce que tu voulais être fidèle là où Dieu t'a placé. Mais que je dise, pas parce qu'il nous a dit, mais Dieu nous a enseigné, si ta voiture est sale et le moteur est sale, ça c'est exactement ce que ton cœur est à l'intérieur de ta vie. Les gens ne voient pas l'intérieur de ton cœur, mais ils voient ce que tu fais, donc prends soin. Et même aujourd'hui encore, sois prudent, parce que peut-être c'est une réflexion de ce qu'il y a dans ton cœur si je regarde à ta voiture. C'est la voiture de la mission, ça ne m'appartient pas. Et je conduis d'une manière dont je ne conduirais même pas ma propre voiture. Je roule sur des dodanes, je roule dans des trous et je dis, oh pardon, c'est cassé. Et tu ne t'es jamais posé la question, Dieu, que m'enseignes-tu? Que veux-tu me dire? Pourquoi ces erreurs arrivent-ils quand cette voiture est entre mes mains? Dieu nous a enseigné comment prendre soin de ce qu'on nous donne et comment être fidèle dans son royaume. Peut-être tu ne travailles pas dans la cuisine. Alors tu manges, après avoir mangé, tu prends ces plats sales, tu les juste déposes quelque part et tu dis non, je ne travaille pas là-bas. Il n'y a rien dans ton cœur qui te dit de nettoyer un tout petit peu, d'enlever les saletés avant d'aller poser. Il y a tant de choses dans notre vie. Et si l'on devient silencieux et qu'on commence à y réfléchir, on peut voir à quoi je ressemble et qui je suis. Ce matin, vous m'excusez, peut-être le culte va être un peu plus long que ce que j'anticipe, mais il y a quelque chose sur mon cœur que j'aimerais partager ce matin. Le dernier week-end, nous étions à Pelindaba avec d'autres frères, Baba Dube, Baba Ngubane, et nous avions un temps très béni. Le culte de Baba Dube était excellent où il nous a expliqué comment le réveil a commencé. Et comment le Seigneur a travaillé dans leur vie, comment il a transformé des choses dans leur vie. Et si nous permettons le Seigneur, il va faire la même chose avec nos vies. Des choses vont venir sur notre chemin, là où Dieu veut que je change. Et si tu es prêt, tu changes cette chose dans ta vie, tu changes. Mais si tu montres toujours du doigt et tu dis les autres sont de travers et c'est les autres qui sont fautifs, alors quelque chose va mal avec toi ou quelque chose ne va pas bien dans ta vie. Donc c'était un temps où il nous a dit comment Dieu a travaillé et agi quand ils ont prié ensemble, qu'ils étaient réunis ensemble et qu'ils ont prié à genoux.
Let us pray.
Prions ensemble. Notre Père Céleste, toi, tu es le seul, à travers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui peut souffler et donner la vie dans ta parole. Et ainsi, nous prions ce matin que toi, tu souffles la vie en abondance et une vie en abondance dans les paroles qui t'appartiennent. Parce que ta parole t'appartient et toi, tu es parole. Et ainsi, Seigneur, nous prions que ce ne soit pas simplement des paroles, mais que cela change nos cœurs et nos vies. Sois avec nous là où ta parole est annoncée dans ce monde, en toute vérité. Seigneur, agis de la manière dont toi seul tu peux travailler et agir. Seigneur, nous savons que Satan essaye d'étouffer ta parole. Là où des gens sont réunis dans des lieux où sont peu que nombreux, mais Seigneur, toi tu as pris quelques pains, quelques poissons et une grande récompense en a découlé à partir du moment où toi tu l'as béni. Nous te remercions de ce que tu nous as gardé durant cette période de COVID et nous prions, Seigneur, que ta grâce repose sur nous tous. Amen. Avant de commencer, je voudrais mentionner ceci en passant. Les derniers mois et années, nous avons entendu parler énormément de l'Exode. ceux qui ont écrit ont utilisé Exode en tant que leur thème, sujet. Et ils ont utilisé la parole de Dieu pour ressembler ou faire ressembler à ce que ce groupe de personnes voulait dire à travers l'Exode. Ami, si toi tu lis la Bible, l'Exode, tu prends la Bible, Exode, veut dire libération du peuple de Dieu de l'esclavage. Et aujourd'hui, dans le terme d'aujourd'hui, ça veut dire libération de la vie de péché dans la vie des gens. Mais à travers les années, tu as entendu parler les gens qui disent « Vous prêchez que sur le péché, que sur le péché. » Et si on ne le fait pas, ce n'est pas juste. Je ne sais pas de quoi vous allez prêcher aujourd'hui. Si tu veux que les gens entendent ce qu'eux veulent entendre. Donc, je ne suis pas sûre sur quoi il faut prêcher. C'était une libération du péché, d'une vie immorale à une vie que le Seigneur a préparée par sa grâce sur la croix et les a emmenés dans un pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'est la signification du mot « Exode ». Et beaucoup a été dit, et je pense, quand j'étais un enfant, une parole que je n'ai pas oubliée, je sais où j'étais, je me souviens même où j'étais assis, hein, et j'étais un jeune garçon quand j'ai entendu ces paroles. Si toi, tu prends ton doigt et tu le places dans les yeux de Dieu, et tout spécialement quand tu ne sais pas de quoi tu parles et quand tu penses que tu sais tant de choses et ta vie ne le montre pas, mais ta vie est juste l'opposé. Beaucoup a été écrit, beaucoup a été dit. Mais parfois, tu dois réfléchir. Ce n'est pas Exode sort d'Égypte, mais c'est l'Exode. L'Exode, c'est tu sors d'Égypte dans un endroit pire que l'Égypte. Si tu regardes ce que Pasteur Stegen, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait, comment Dieu a construit son royaume, si tu regardes ces gens qui parlent tant, si tu vois qu'est-ce que Dieu a-t-il fait à travers leur vie, qu'est-ce que Dieu a-t-il accompli dans leur vie, ceux qui parlent autant dans Exode? Et si tu lis les choses immorales qui sont écrites et qu'une personne a le courage d'écrire ce qu'elle écrit, que penses-tu d'un tel thème? D'un tel thème, cela n'a rien à faire avec le christianisme. Judas faisait partie des 12 disciples, mais il était une pomme pourrie ou une pomme de terre pourrie, ils ne l'ont pas vu. Et laissez-moi vous dire que partout dans chaque lieu, tu as de telles personnes. Et quand ils partent, ça, ce sont les gens qui ont la plus grande bouche et qui ont tant de choses à dire. Que Dieu nous aide, toi et moi, que si l'on parle de l'Exode, que nous parlons d'une réalité dans notre vie où Dieu nous sort de la vie de péché dans une vie où coule le lait et le miel, une vie victorieuse et d'où jaillit une vie victorieuse. Ne soyons pas confus sur ce que disent les gens et ce qu'ils écrivent. N'importe quel insensé peut faire cela. Mais ne soyons pas confus. La parole de Dieu reste. Et la parole de Dieu est ferme. Cette semaine dernière, j'avais un certain nombre de visiteurs et il est intéressant, la majeure partie d'entre eux ont compris exactement. Ils ne font pas partie de la mission. Et parfois, tu te demandes si cette personne est chrétienne, mais ils ont compris exactement ce qui se passe. Si le monde le comprend, pourquoi est-ce que les chrétiens ne le comprennent pas? Et j'ai pensé, cela fait longtemps que j'ai à cœur, cela brûle longtemps sur mon cœur, que Dieu, dans sa grâce, agisse et travaille. Et travaille de telle manière afin que son nom soit glorifié. Montre-nous, pas par des paroles, pas par des paroles écrites, montre-nous à travers ta vie ce que Dieu fait à travers ta vie. Combien de personnes sont transformées, complètement changées? Montre-nous. Montre-nous. Alors nous vous montrerons également un homme, ce que Dieu peut faire et ce qu'il fait en ce moment. Et que Dieu n'a pas fait à travers un homme. Et laissez-moi dire, la jalousie, très souvent, est un grand problème dans la vie de l'homme. Cela est suffisant. J'ai dit ce que j'avais à cœur. Et je prie que Dieu, afin que Dieu que Dieu nous aide en ce temps. Ce matin, je voudrais lire une écriture qui est une écriture très connue. Et c'est le sel de la terre, être le sel de la terre. Nous lisons cela, Luc 14, à partir du verset 14. Quiconque n'abandonne pas ce qu'il a ne peut pas être mon disciple. Le sel est bon, c'est quelque chose d'excellent, mais si le sel a perdu sa saveur, comment est-ce que le sel peut-il être restauré? Donc c'est Luc 14 à partir du verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette parole contient beaucoup. Et aujourd'hui, si on partage, tu ne peux que mentionner l'ourlet d'un vêtement, c'est si profond, mais on n'a pas le temps pour parler sur toute chose. Le sel, peu importe où tu trouves le sel dans le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, le sel, c'est du sel. « le goût, l'assaisonnement, c'est pareil, c'est du sel. La saveur est la même chose. Et ainsi, l'évangile est l'évangile. Peu importe où le trouve dans le monde, c'est la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ est la même, que tu le lises ici ou que tu le lis même si tu vas sur la lune, que tu le lis là-bas, c'est toujours encore la même chose. Il n'y a pas de telle chose qu'il y ait un différent évangile. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est le même évangile. Parce que avant, et j'ai entendu, oh non, ça c'est pour l'Afrique. Tu peux prêcher ça en Afrique. Cela le comprenne la manière dont toi tu prêches en Afrique. Le sel est du sel. Si tu peux venir me dire, dites-moi, il y a différents types de sel. Le sel ici est différent que dans un autre pays. Les ingrédients, du sodium, du chlorure de sodium, est la même chose. Et la Bible et le Seigneur nous ordonnent et nous disent, toi, tu es le sel de la terre et pas seulement le sel dans ta petite ville où tu es, le sel de la terre. C'est un appel. Le sel est bon et quelque chose d'excellent, nous dit la Bible. Mais avant de venir à cette parole, il y a certaines choses que le Seigneur a dit et je voudrais qu'on les considère et entendre ce que le Seigneur dit. Et courtement, je voudrais mentionner certaines de ces choses. Il dit, ça c'est juste avant de parler du sel, et cela est relatif ou cela fait partie. Oui, important. Avant que le Seigneur mentionne les choses du sel, il mentionne quelque chose d'autre avant de dire cela. Si toi, tu invites les gens, n'invite pas seulement tes amis parce qu'ils peuvent te rendre. Dans verset 12, il est dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Parce que si toi tu invites tes amis, tu sais qu'ils vont te le rendre et donc toi tu sais que tu vas recevoir ta récompense. Quand la dernière fois tu as invité quelqu'un avec qui tu ne peux ou la personne ne peut pas te rendre ce qu'il te donne? Si tu invites quelqu'un à un dîner, écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, invite les pauvres. Quand la dernière fois? Il est dit, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux, des aveugles, et il parle souvent spirituellement. Et ici, le Seigneur nous dit, invite ceux-là. Si tu es invité, assis au bout de la table, pas à la tête de la table, parce que tu penses que tu es important, cela va avec cette parabole sur le sel. Si toi, tu es invité, prends le siège le plus bas et pas le siège qui est en tête où tu penses que tu es important parce que tu es invité. Et il parle également de porter ta croix. Nous devons porter notre croix. Il dit, si tu viens à moi et tu ne hais ni ton père ni ta mère, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Jean, ce sont les qualités du sel. Souvenez-vous de ce que je mentionne. Lisez tout le chapitre 14 et vous lisez des points très spécifiques que le Seigneur Jésus mentionne dans le chapitre 14. Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix, » en anglais, il est dit « la personne qui ne persévère pas et porte sa croix. » Donc, ces deux choses vont ensemble, verset 28. Ceci est la première fois où il est dit « car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, très spécifique, une tour, il est dit « tu t'assieds et tu calcules la dépense ». Il y a certaines choses que le Seigneur mentionne et touche des points avant de parler du sel de la terre. Et ça, ce sont des qualités afin que je puisse être du sel, du vrai sel ou le sel pur. Donc, si quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Pensez, réfléchissez, nous accrochons à des choses. Ce que j'ai est important, l'argent est important. Nous sommes attachés à des choses. Ce n'est pas une chose facile d'être le sel de la terre. Cela coûte quelque chose. Le sel est quelque chose dans sa pureté. Et si le sel n'est plus pur, cela doit être jeté. Et le sel est bon à cause de sa pureté. Donc, prends ce que nous avons lu, fais ton devoir, que ce soit un devoir, lis à la maison, et prends un point après l'autre et regarde où tu tombes, dans quelle catégorie. Pas étonnant que tu ne peux pas être le sel de la terre parce qu'il y a certaines impuretés qui se trouvent dans ta vie et qui ne devraient pas être là. L'un des ingrédients les plus importants, c'est l'obéissance. Obéissance et l'amour à l'égard de ton Seigneur. Et amour à l'égard de ton prochain. Nous avons entendu quel amour? L'amour à l'égard des pauvres, les estropiés. Les aveugles, les boiteux, c'est quoi cet amour que tu as? Pas ta famille, ta nation, ton peuple. Le sel de la terre, le sel affecte l'environnement, affecte les choses autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est du sel. Et immédiatement, cela affecte toute chose autour de toi. le sel signifie, écoutez, le sel signifie la chose suivante. Le sel pénètre partout où cela passe, cela pénètre. Le sel est loyal. C'est durable et fidèle, est utile. Le sel a de la valeur. Dans les années, les gens étaient payés en recevant du sel. Et purification. Regardez toutes ces significations du sel. Le sel, en fait, met tout l'évangile en réunit l'ensemble. Cela signifie l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En simplement vivant parmi ou dans ta communauté, ou vivre au milieu de ta famille, à l'école, au travail, si toi, tu es du vrai sel, immédiatement, cela va affecter ceux autour de toi. Pensez. Réfléchissez, si le sel se trouve dans une salière, c'est inutile, mais dès qu'il est mis en contact avec quelque chose d'autre, le sel fait son travail. Nous n'avons pas de choix. Si nous voulons être le sel, nous allons affecter toute chose autour de nous. Le travail que je fais sera visible. Le travail est salé. Dans Matthieu, nous lisons « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel a perdu sa saveur, comment peut le sel être restauré? Il n'est pas bon pour rien, ou le sel n'est bon pour rien. Cela n'a plus de saveur, tu peux que le jeter dehors. Et on le piétine, être piétiné. Mais dans Luc, le Seigneur, à travers Luc, il spécifie, et il est très spécifique, être le sel de la terre. Il dit, si le sel n'est bon ni pour la terre, ou si le sel n'est plus bon, il n'est plus bon pour la terre, ni pour le fumier. Tu as du sel que tu utilises pour la nourriture, du sodium de chloride, le sel, dans sa valeur, dans du temps de Jésus, a été récolté dans la mer morte. Donc les Juifs savaient exactement de quoi ils parlaient. Mais le sel n'est pas seulement du sodium de chloride, du sel pour la cuisine, pour la nourriture. le sodium de chloride n'est que partie de tout l'ensemble. Mais savez-vous que les engrais que nous utilisons est du sel? Et quand tu travailles avec des engrais comme nous, il y a un courant électrique et le plus tu mets d'engrais, plus le courant devient fort. Et dans le sel, tu as du potassium. Donc, cet engrais est spécifiquement pour les fleurs. Le nitrogène est là pour faire grandir. Alors, tu as du phosphate, et spécialement pour les racines, afin que les racines deviennent fortes, grandissent et soient en bonne santé. Donc, quand Dieu nous parle et il utilise sel à travers sa parole, c'est pour nous encourager, pour donner la croissance et devenir fort. Tout spécialement les racines qui ne sont pas visibles, devenir fort dans ta foi. Et tu as besoin pour les plantes, donc tu le mets sur la terre, tu es le sel de la terre. Le sel de la terre, tu as besoin de le jeter sur la terre, cela n'aide pas de l'avoir dans un sac. Le sel doit aller là où il appartient. Et tu as besoin de le mettre ou de l'utiliser en bonne quantité. Si tu en mets de trop, les plantes vont mourir. Où tu ne peux pas manger, c'est trop salé. Ça, c'est une des plus grandes erreurs que moi j'ai fait quand j'ai planté des avocats. Et j'ai pensé, il est bon pour cet petit arbre, je vais mettre des engrais, des engrais. Donc, les arbres mouraient. Je voulais bien faire, mais ce n'était pas la bonne chose. Et ainsi, tu apprends. Sois prudent, comment est-ce que je dois appliquer le sel ou les engrais qui contiennent du sel? Mais la Bible dit, ce n'est même pas bon pour le fumier. La Bible parle que le sel, s'il perd sa saveur, n'est même pas bon pour le fumier. Dans les anciens temps, au fond de la maison, derrière la maison, il y avait un trou, un fumier, où ils avaient des toilettes avec un trou, donc c'était du fumier. Et quand tu avais fini, il y avait un petit récipient avec du sel. Donc, quand tu avais fini, tu prenais une poignée de sel et tu le jetais sur ce que toi, tu laissais derrière toi. Et le travail, ce sel, c'est désinfecter l'impureté. Ça, c'est ce dont ils utilisaient le sel. Et il est intéressant, cela promote la croissance, mais le sel désinfecte, purifie, le nettoie. Et beaucoup de personnes ont un problème avec cela quand le sel est mis et que le Seigneur met du sel dans leur vie pour purifier, nettoyer. Oh, cela est la chose la plus difficile à avaler, la chose la plus difficile à accepter. Qu'il m'a été montré quand le Seigneur me montre que quelque chose n'est pas en règle dans ma vie, où il met son doigt dessus. Et le Seigneur a besoin de désinfecter des choses dans notre vie, de purifier des choses dans notre vie. Pas étonnant, la Bible dit que la prière d'un homme juste a beaucoup d'importance. Ce sel, cette prière, par la grâce de Dieu, Dieu l'utilise à travers sa grâce. Alors cette chose est désinfectée dans ta vie. Donc ainsi, le sel aide à croire, promote ou promotionne la croissance, aide la plante, mais de l'autre côté, désinfecte, purifie ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est mal. Donc dans nos vies, ces choses doivent être là. Aujourd'hui, c'est fait différemment, mais le Seigneur parle de quelque chose dont les gens comprenaient et ils savaient l'effet, et cela est encore important aujourd'hui. Le sel est nécessaire, même si cela brûle, si tu as un mal ou une blessure, si tu mets du sel dans cette blessure, ça brûle, ça désinfecte, ça nettoie. Et c'est pourquoi le Seigneur nous parle chaque dimanche. Chaque dimanche, il promotionne ou il parle de la croissance, il parle d'une plante en bonne santé, mais en même temps, il parle de nettoyer et de se séparer de ce qui est méchant, de ce qui est mal. Et ainsi, si tu es avec des gens, ta présence devraient fermer leur bouche afin qu'aucune parole méchante sorte de leur bouche si, à cause de ta présence, parce que toi, tu es le sel. Qu'ils n'aient même pas le courage de jurer si toi, tu es présent. Pourquoi? Parce que tu es le sel, simple, très simple. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre davantage. C'est une réalité simple de la vie, dans la vie. Et si toi, tu es une dame ou une jeune fille et que l'homme commence à te suivre et que les mouches te suivent et que tu as une relation immorale, tu n'es pas le sel de la terre que Christ attend de toi et que toi, tu devrais être. Et s'il y a des relations immorales, ils viennent du fond de l'enfer. Et Christ a besoin de sauver une personne de ce type de vie. Et un bon fermier, un bon paysan, il va veiller sur ses enfants. Tu as besoin d'être, il est éveillé, tu as besoin de sel dans la maison et les enfants sauront, mon père est présent, mon père est là. Je ne peux pas être insensé à l'égard de ma mère, je ne peux pas dire des paroles impures à cause de la présence de mon père, il ne le permettra jamais. Quand les enfants entendent la mère qui parle avec le père, ils entendent le sel du ciel et ils expérimentent le ciel, le sel céleste, la manière dont elle parle, la manière dont elle répond, la manière dont elle fait les choses, la manière dont elle soutient son mari. Ils comprendront ça, c'est du sel pur, du vrai sel. Toi, tu ne peux pas cacher ta foi. Le sel est inutile s'il est dans un récipient. Il est sans utilité, il ne vaut rien. Ce n'est que si tu le sors et tu le mets dans le bon environnement, dans la bonne quantité, il a le bon effet et un effet juste. Tant de jeunes gens, dans leur pensée, ils ont cette obsession, ils veulent se marier. Et chaque personne qu'ils voient, ils disent « Oh, ça c'est celui que Dieu me montre ». Oh, regarde la manière dont il me regarde immédiatement. « Ami ». Le sel du ciel a besoin de purifier cela dans ta vie. Parce que si Dieu apporte la bonne chose, tu le sauras en son temps. Il va apporter, il va mettre la bonne personne sur ton chemin pour ta vie. Et parfois, nous pensons que nous mettons du sel, mais ce n'est pas le sel pur. Parfois, j'ai rencontré un ancien copain de classe et cela m'a parlé, il m'a dit, Dietmar, tu sais, je suis allé dans des camps de jeunes dans une certaine région et c'est là où j'ai rencontré ma femme. Et dans ma pensée, je ne sais pas, mais dans ma pensée, je me suis dit, oh, oh, que se passe-t-il? Ces jeunes, ces chorales, quelle est la raison? Pourquoi? C'est peut-être là où les anciens ou les personnes âgées ont pensé qu'ils réunissent les jeunes, qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils se mélangent. Mais amis, l'impureté, les impuretés peuvent découler de ces situations. C'est pourquoi parfois Dieu arrête toute chose et il empêche de telles rencontres. Si les jeunes sont ensemble, réunis, et s'ils ont ce sel, il découlera une pureté que Christ seul peut apporter dans leur vie. Et merveilleux. Et alors, tu peux te tenir devant le monde et dire, regardez-nous. Jeunes gens, ne sous-estimez jamais cela. Si le Seigneur est présent et si le Seigneur est dans ta vie, pour sûr, moi je l'ai expérimenté ainsi, Je n'avais pas besoin de chorale ou de rencontre de jeunes, de groupes jeunes. Pas que c'est faux d'avoir des chorales, oui, c'est bon d'en avoir. Mais quel est le motif derrière ces rencontres? L'autre est la critique ou la médisance. Si quelqu'un fait quelque chose de mal ou de travers, tu ne vas pas en parler à d'autres ou le raconter à d'autres. Ça, c'est un péché, la Bible nous enseigne. Si quelqu'un a fait quelque chose de travers ou faux, va vers cette personne, parle à cette personne et aide cette personne, soit une aide et que cela édifie la personne. Tu ne peux pas simplement aller chez n'importe qui et montrer les péchés, parler des péchés ou des fautes des autres, des erreurs. Les erreurs des autres, tu vas et alors tu te tais. Si tu vas vers cette personne et il n'écoute pas, il n'accepte pas ton aide, alors tu appelles quelqu'un d'autre de l'Église et tu t'assieds et tu essaies d'aider cette personne. Toi, tu le fais parce que toi, tu as affaire avec cette chose. Toi, tu vas, ami. Ça, c'est ce qui nous a été enseigné dès le début ici. Et ensuite, si cela n'aide pas, tu appelles l'Église. Et que, afin qu'on puisse faire quelque chose avec cette situation. Parce que toi, tu propages la gangrène. Si toi, tu mentionnes quelqu'un d'autre ou tu n'aurais pas dû le mentionner. Le sel purifie. Le sel qui est pourri. Si quelque chose est pourri, le sel le purifie et sépare ce qui est mauvais. Ami, Dieu va utiliser des choses dans nos vies et va utiliser même des gens que nous pensons, oh, ça c'est, ils ne devraient pas faire cela, ils ne devraient même pas être ici. Qu'est-ce qu'ils savent sur ce thème? Souvent est arrivé dans ma vie, parce que je travaillais à la ferme et Pasteur Stegen était une aide pour moi, m'a montré, m'a enseigné. Et quelqu'un venait qui ne savait rien, qui ne savait absolument rien et n'avait même pas une idée et dit, Pasteur Stegen m'a envoyé pour te dire ceci et cela et cela. Et dans ton cœur, tu peux dire, mais qui est-il? Mais, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé avec un message? Ça, c'est la chose la plus importante. Et si moi, si je suis jeune et je pense que je sais, tu ne sais rien. Si toi, tu es jeune et tu sais mieux que les anges, que les anciens, tu ne devrais même pas être là où tu es. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné des anciens le sel de la terre, afin de nous enseigner, nous aider, de nous diriger. Et je dois avoir une oreille pour entendre que lorsqu'ils viennent et qu'ils me parlent. Peu importe si ta mère est éduquée ou pas, ton père est éduqué ou pas, s'il a une éducation ou pas, il est le sel, s'il est le sel de la terre, il a été envoyé par Dieu, tu dois t'humilier, écouter tes parents parce qu'ils sont le sel de la terre. Oui, nous savons et nous acceptons qu'il y a ces parents qui ne sont pas des bons parents, qui ne sont pas croyants, mais s'ils te conduisent de la même manière, d'une bonne manière, tu dois te soumettre et comprendre que ça, c'est le sel. Il y a beaucoup de personnes âgées ou adultes dans le Zululand qui sont si sages et parfois tu te demandes d'où ont-ils obtenu leur sagesse, mais si tu leur écoutes, tu comprends. En général, nous, en tant que Blancs, nous n'écoutons pas, nous pensons que nous sommes sages, nous ne pouvons pas écouter à d'autres, nous pensons que nous savons mieux, mais peut-être finalement nous allons atterrir dans le buisson ou dans la forêt vierge parce que nous ne sommes pas prêts à écouter. Tu prends ce mot, le sel, et tu penses et tu médites sur ce mot, tu comprendras que cela a une signification plus profonde. Si une personne âgée est avec toi, tu dois respecter et dire « non, tu es vieux, tu ne sais pas » et tu ne montres plus de respect. Tu dois respecter et comprendre que Dieu a envoyé cette personne et que cette personne plus âgée est le sel. Le sel est quelque chose de bon et d'excellent, mais si le sel a perdu sa saveur en France, en anglais, il dit ses forces, et n'est plus, ou s'il a perdu sa saveur, comment peut-on restaurer cette saveur? En anglais, il dit s'il a perdu ses forces et sa saveur. Amis, nous avons besoin d'être très prudents. Extra prudent, que ce sel en nous reste pur. Parce que le sel, s'il n'est pas pur, va endurcir une personne que toi, tu penses, tu touches son cœur. Cela va endurcir son cœur. Tu penses, et très souvent, je pense, comment est-ce que le sel peut-il perdre sa saveur? Le sel est du sel. Si tu l'utilises, il est là. Il a tous les bons ingrédients. Mais le Seigneur sait, et très, il est spécifique, il dit s'il perd sa saveur, cela ne peut pas être restauré. Dans Hébreu, nous lisons, si tu connaissais une fois la vérité et que tu as pris part et le sang de Christ a purifié de ton péché, si toi tu tombes, si tu tombes, humainement parlant, la Bible dit, il n'y a pas d'espoir pour toi. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus avertissait les gens. Tu n'as pas été prêt. Que le Seigneur t'aide avec ta tête dure. Tu as toujours une réponse pour ton mari. Tu es endurci. Tu as des dames qui ont une tête dure ou qui ont une volonté. Mais pauvre mari, mais si travaille avec cela dans ta vie et tu n'es pas prêt à te soumettre, à t'humilier, sois prudent. Le sel, comment peut-il perdre sa saveur? Mais la Bible le dit, qui cela peut arriver? Si toi tu utilises des engrais, si tu utilises des engrais, tu ne prépares pas le champ et tu contrôles ce qu'il y a dans le sol et tu prépares pour te séparer des impuretés, ces engrais s'attachent à d'autres choses au sol et ne le donnent pas aux plantes qui en ont besoin. Et c'est pourquoi les choses parfois ne travaillent pas, ne fonctionnent pas. Et ce n'est qu'en examinant et réexaminer et demander d'autres d'examiner ton sol, vous entendez, spirituellement. Demandez d'autres laboratoires de contrôler le sol et tu trouveras cette chose dans le sol. Les engrais s'accrochent à autre chose et les engrais ne sont pas disponibles pour les plantes. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit d'examiner nos cœurs. Parce que si tu entends la parole de Dieu et ton cœur est endurci, tu ne peux pas porter de fruits parce que ton cœur n'est pas en bon état. C'est pourquoi tu dois t'examiner. Comment est-ce que le sel peut-il perdre sa saveur? En ayant des impuretés, il perd sa saveur. Il y a trop de choses, d'autres choses dans le sel. Et qui le rendent impur. Par exemple, si toi tu aides le sel dans ton œuf et dans ta viande et qu'il est sale et qu'il y a du sel ou du sable dedans et tu commences à mordre là-dessus, tu le craches. Or, tu ne peux pas le manger parce que tu sais, cela grince sous tes dents. Et si ce sel, si tu trouves que ce sel a ses impuretés, n'importe quoi, c'est quand tu l'es dans ta soupe, cela flotte sur le dessus de ta soupe et tu te dis d'où sortent ces impuretés. Tu le prends et tu le jettes. Tu ne peux pas le manger. S'il y a des impuretés dans le sel, il n'est bon qu'à être jeté. Si toi, tu as quelque chose qui donne une odeur, ou ce que cela peut être, si tu le mets, tu dis, attends, cela ne peut pas être juste, jette-le. Et laissez-moi ajouter cela. Tu as toujours besoin de mettre le bon montant. Tu ne peux pas toujours mettre du sel, du sel, du sel. Non, ta vie, ta joie, ton amour, ta joie, la manière dont tu fais les choses, la manière dont tu fais les choses, ça, ce sont les choses qui parlent le plus fort. Le Seigneur ajoute du sel dans notre vie suffisamment afin que ce sel fasse son travail, qu'il pénètre et qu'il travaille dans les cœurs, qu'il travaille dans ce cœur jaloux. Ce cœur méchant que personne ne connaît, toi seul tu connais, peut-être comprends un petit peu. Ce cœur méchant a beaucoup de jalousie. La jalousie est quelque chose de méchant. Dieu utilise quelqu'un d'autre, alors tu es jaloux. Pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Et immédiatement, cette impureté, Dieu ne peut pas utiliser cette impureté, il ne peut pas utiliser ce sel. Et c'est pourquoi il dit, le sel n'a pas besoin de parler. Si toi tu le mets, c'est silencieux, mais si tu le mets dedans la manière dont tu travailles, la manière dont tu es à la maison, la manière dont tu prends soin des visiteurs que toi tu n'aimes pas, pas ceux que tu aimes, ceux dont tu n'aimes pas, la manière dont tu les sers, la manière dont tu es avec eux, la manière dont tu es avec des gens d'autres nations, ça c'est le sel, la manière dont tu les traites, la manière dont tu prends soin d'eux et la manière dont tu les considères, cela parle plus fortement et est visible. La jalousie est une impureté qui détruit le meilleur sel. La jalousie rend ce qui est bon mais mauvais. Quelqu'un peut penser quelque chose de bon ou te dire quelque chose et immédiatement, tu le retournes immédiatement, ta réaction est mauvaise. Immédiatement, quelque chose arrive dans ton cœur et d'un coup, la mission, toute la mission est mauvaise. Et ainsi, les gens de la mission ne sont plus ce qu'ils devraient être et tu vois un certain nombre d'erreurs. Et d'un coup, tu as ces pensées méchantes concernant d'autres. Cette mission qui était une telle bénédiction, tu es venu ici parce que cette mission est devenue une bénédiction et d'un coup, tu as tourné 190 degrés. Qu'est-ce qui était la cause qui t'a fait tourner? Non, pas les gens. Ne blâme pas les gens. C'est ton cœur qui te fait tourner 180 degrés. Contre la mission. Au début, tu te réjouissais, tu étais content, tu prenais des balais, tu pouvais balayer, et tu au commencement, tu pouvais chanter, tu avais un chant sur ton cœur. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout cela. Et ami, tu es venu ici, tu étais convaincu de ton péché, la manière dont tu étais, tu n'as rien montré de toi-même, tu étais ce que tu étais, mais aujourd'hui, si les gens te montrent, te voient marcher, tu as une manière dont tu marches, je suis cette type de personne, il y a quelque chose, il y a une odeur qui sort de toi, et d'un coup, oh, et malheur si quelqu'un touche mes enfants. Voyez-vous, s'il touche tes enfants, oh, alors l'enfer est lâché dans ta vie. Personne n'a le droit de toucher mes enfants. Est-ce que c'est peut-être cela est-il un signe que le sel perd sa saveur dans ta vie? D'un coup, tu te tournes contre les gens et ceux qui étaient tes meilleurs amis. Pourquoi? Il doit y avoir des impuretés qui sont entrées dans le sel. Oh, et si tu te réveilles, cela est trop tard. Aujourd'hui, tu as le COVID-19, le spirituel COVID-19, où tu as plus de goût, de saveur. Tu ne peux rien, tu ne peux pas goûter, tu n'as pas d'odeur. Et spirituellement, cela est ainsi. Tu as plus de saveur en toi et tu meurs. Le COVID-19, beaucoup, on entend parler qu'ils perdent l'odeur et la saveur. Ils disent, même si tu manges du sel, j'ai entendu parler que si tu mets du sel, tu ne le testes pas, tu ne le goûtes pas. Voyez-vous, une personne qui a le COVID, ça n'a pas de saveur. si une personne est morte spirituellement, même si tu mets du sel, il ne peut pas tester, goûter. Donc, il est meilleur qu'on jette la personne ou qu'une personne soit mise dehors. Et il est dit qu'il n'est bon pour, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Puis, ils ont demandé, Seigneur, s'il est ainsi, qui peut être sauvé? Mais le Seigneur dit avec lui, toutes choses sont possibles. Il a un remède pour ce COVID spirituel. Il peut être assis dans une réunion, tu peux entendre ta parole. Tu n'as pas de saveur, tu n'as pas de goût, tu n'es que préoccupé avec tout le mal, avec tout ce qui est faux. Tu es que préoccupé avec ça. Ton cœur est rempli d'impureté. Et je voudrais conclure avec une parole et je voudrais le lire. Je n'imagine et je ne comprends pas dans tout son ensemble. Mais quand je l'ai lu, je ne savais pas que cela existe. Dans Marc 9, verset 49. Marc 9, verset 49. Car tout homme sera salé de feu. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même. Écoutez cette parole. Le Seigneur, il est intéressant comment les disciples l'ont écrit de différentes manières. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est comment il est unique, sa sagesse. Marc le mit, mais différemment, il dit, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix. » Et vivez en harmonie les uns avec les autres. Parfois, j'étais quelque part, je ne dirais pas où j'étais, et tu as toujours entendu cette personne a fait ci, cette personne a fait cela, cette personne est décédée, cela tourne autour de ça et je ne pense pas que cela contient du sel. Ayez du sel en vous-même. Le sel doit être en vous, doit pénétrer en toi et doit te remplir. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés par Dieu. Tu sais comment tu étais quand tu es venu à la mission avec un cœur brûlant. Tu as dit, je dois nettoyer, je dois me purifier et le Seigneur doit sanctifier ma vie. Avec le temps, une, deux, trois semaines, où est-ce qu'il y a cette attitude? Ce n'est que la bouche qui parle et non pas le cœur. Mais le Seigneur Jésus dit, le sel doit être en nous, afin que nous puissions vivre les uns avec les autres. En harmonie, en anglais, il est dit en harmonie et en paix avec les autres, même ceux que toi tu penses, oh celui-là, il n'est pas bon, ou celui-là, il n'est pas comme moi, ou celui-là, il est ceci. La Bible nous dit, chassez derrière la paix, ayez la paix avec chacun. Mais d'un autre côté, beaucoup font l'erreur et ils se taisent quand le frère fait quelque chose de travers ou quand les choses ne sont pas en règle. Mon grand-père venait souvent à la mission et racontait ici à Anclerlo ce que faisaient ses petits-enfants à la maison. Et c'est ainsi que tu connais un homme où il y a du sel dans son cœur. Il ne cache absolument rien. Et si nous cherchons la paix avec le prochain, alors nous arrêtons de lui contredire et nous arrêtons de lui écrire. La Bible dit, cela nous devons chasser derrière la paix. Nous parlons les autres doivent le faire en premier. C'est le prochain, l'erreur est toujours chez le prochain, jamais chez moi. Mais en fait, l'erreur se trouve chez toi. Il est intéressant, ce sont des versets intéressants que le Seigneur Jésus a utilisés. Ils sont droits, des paroles droites, aiguisées sans compromis. Va aux versets, les versets précédents. Que dit le Seigneur avant cela? Verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, moralement, si tu pêches ou si tu voles, si tu frappes quelqu'un d'autre, peu importe ce que c'est, il vaut mieux pour toi de la couper. D'être tragique, d'arrêter immédiatement avec cette chose. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, il est dit, coupe-le. Voyez-vous comment le Seigneur Jésus était tragique. Si toi tu veux être du sel, si tu veux être du vrai sel, alors lis ces choses. Ce sont des choses dures à avaler et difficiles. Et il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, Job a fait une promesse avec ses yeux, il a dit, je ne regarderai jamais une vierge désirer après elle ou de la voir. Il dit, j'ai fait une promesse. Vous entendez cela? Ça, c'est comment il était. Et il a gardé ce commandement dans son cœur et cette promesse. Ami, regarde le type d'enfant qu'il a eu. Ils disent que ses filles étaient les plus belles filles dans le pays. Oubliez cette chair. Spirituellement, qu'est-ce que cela signifie-t-il peut-être spirituellement? Voyez-vous un homme qui a coupé ou arraché son œil? Voyez-vous le résultat? Il tue même ses enfants l'expérimentent. Le Seigneur met deux choses ensemble. Car tout homme sera salé de feu. Les deux choses sont réunies, le sel et le feu purifient. Le feu fait la même chose à travers la purification. Puis il purifie l'or et l'argent. Cela brûle et sépare toute l'impureté et sépare tout ce qui n'est pas bon. Donc, le sel et le feu purifient et rendent les choses saintes. Et si ton message ne purifie pas ou n'a pas un message de purification, de brûler, et que les gens n'aiment pas ce que tu dis, parce que c'est la vérité, remercie Dieu, parce qu'il doit y avoir quelque chose de bon dans cette chose. Dieu nous fait passer à travers le feu dans différentes situations, rencontrer différentes personnes et purifie. Vois-le de cette manière. Comprends-le, ne regarde pas la personne. Toi, tu vas passer à côté, un jour tu dois te tenir devant Dieu. Si cette personne te fait quelque chose et que cela fait mal, peut-être Dieu utilise cette personne pour purifier ta vie. Voyez-vous la main de Dieu? Regarde la main de Dieu, il est préoccupé avec ta vie, non pas la vie du prochain, il est préoccupé avec ta vie. Et il utilise des circonstances, des situations, afin de purifier et de rendre pur et saint. Dans Malachie, nous lisons, qui peut endurer le jour de son retour? Il sera comme un feu qui raffine ou comme du... Il sera assis et qui purifie l'argent. Il purifiera les Lévites, il raffinera ou purifiera l'or et l'argent. Le feu brûle et heurte. Le sel également brûle et te heurte. Mais être salé par le feu, être salé de feu, on peut aller un pas plus loin. Le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit commence à brûler dans notre vie. Et c'est prie afin que ce feu soit allumé dans nos vies. Si nous sommes salés à travers le feu, si nous sommes purifiés, son feu va brûler dans nos vies. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut. Il cherche des gens où son feu brûle, où son Saint-Esprit est vivant. Là où tu les places, là où tu les rencontres. Et cela va commencer un feu. Et cela va être du sel. Les choses vont changer, quelque chose va arriver. Aujourd'hui, les gens disent, oh, le monde devient si méchant, les chrétiens vont tous dans la mauvaise direction. Moi, je ne le regarde pas de cette manière. Non. Satan veut détruire tous les enfants de Dieu, qu'ils se disputent et qu'ils aillent l'un contre l'autre. Mais Dieu veut purifier. Dieu veut rendre pur. Et amis, si nous sommes là, dans ce monde méchant, mauvais, si nous sommes placés là-bas dans une école où c'est si difficile, mais parce que je suis présent avec l'aide de Dieu, Dieu va commencer à travailler. Le sel va pénétrer ceux qui sont autour de toi. Et ceux autour de toi, tu verras, oh, ils avaient l'habitude de jurer, ils parlaient sur le mauvais, sur l'employé, l'employeur, et d'un coup, cela n'est plus là. Les gens changent. Et peut-être tu n'as rien dit. Peut-être tu n'étais que présent dans le bureau, de juste ta présence. D'un coup, le sel pénètre ceux qui sont autour de toi. Voyez-vous, si toi tu entres en contact avec le monde parce que tu es le sel, ils ne vont pas te changer, toi, c'est toi qui vas les changer avec l'aide de Dieu. Le sel est une chose merveilleuse, quelque chose d'essentiel. Oh, mais malheur s'il a perdu sa saveur. Peut-être l'homme va peut-être te piétiner, il va te rejeter. Pourquoi? Parce que tu as permis des impuretés entrer dans ta vie. Que le feu de Dieu soit allumé dans nos vies, que nous soyons salés entièrement dans notre vie à travers sa grâce. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous avons entendu comment le feu est également quelque chose qui purifie et un type de sel. Comment le feu peut-il purifier le métal? La saleté, quand le métal fond, la saleté va flotter et monter à la surface du métal. Et je me souviens comment moi, en tant que jeune garçon, quand j'ai fait mes plombs pour aller pêcher, je prenais un morceau de fer et je pensais que c'est propre. Et quand tu le faisais fondre, d'un coup, tu voyais qu'il y avait plein de saleté qui montait à la surface. Et amis, si cette réunion a fait monter la saleté et flotter, que ces choses montent à la surface et deviennent visibles, Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que fait la lumière? La lumière nous montre le chemin. La lumière nous montre le chemin qui mène au Mont Calvaire. La lumière nous montre comment travailler avec cette chose dont il a été parlé, ce qui est si embarrassant pour moi. Et je pense, oh, je vais mourir 10 000 fois plutôt que de le mettre à la lumière et accepter cette saleté qui flotte. La lumière te montre que faire avec cette saleté et cette impureté. Apporte-le, mets-le à la lumière. Apporte-le au Seigneur et laisse-le te laver, te sanctifier et reconnais combien tu es méchant et mauvais. Et Dieu va te rendre libre. Oui, cela va brûler. Le sel dont nous avons entendu parler aujourd'hui brûle là où il y avait des impuretés dans notre vie. Mais si nous refusons le sel de cette réunion de faire son travail dans notre vie et son œuvre dans notre vie, si nous prenons la saleté, l'impureté qui est venue à la surface et nous l'enterrons et le cachons profondément dans notre cœur, tu vas finir du sel sans saveur. Et sais-tu quoi? Tu es peut-être respecté, mais tu es une autre opinion dans ce monde. Une autre personne avec une autre opinion dans ce monde. La parole de Dieu n'est pas une autre opinion. Ce que nous avons entendu est absolu, c'est la vérité de Dieu. Et le fondement de la parole de Dieu est ferme. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et chacun qui appelle le nom de Dieu et qui se sépare de toute iniquité. Ce dont nous avons entendu aujourd'hui, et si nous l'ignorons, est la cause pourquoi les églises deviennent tièdes et sans utilité dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que l'Église cache l'impureté et ils essaient de se justifier, ils argumentent contre les injustices, les impuretés, les saletés. Et tu peux avoir peut-être certaines personnes t'approuvent et te disent que tu as raison si tu critiques et tu l'acceptes. Mais toute autre chose dans ta vie ne va plus être important et tu vas dire, oh, ça dépend d'où la personne vient, ça dépend ce que tu fais, et cela n'est plus absolu, c'est tout devient relatif. Dieu, la parole de Dieu est absolue, tu ne peux pas la transformer, tu ne peux pas la tiédir et la rendre tiède, c'est absolument la vérité. Et si tu dévies de cela, tu es sur le chemin de l'enfer. Donc, permets la lumière de Dieu de te montrer le chemin vers le mont du Calvaire avec ton fardeau, ton péché. Où tu peux être purifié et pardonné. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle coupe profondément et divise entre chair et os. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce aujourd'hui et de permettre ta parole de couper ce qui doit être coupé dans notre vie. Ô Dieu, sauve-nous de l'orgueil, de la fierté. Sauve-nous de la fierté qui nous fait fuir de toi quand le sel est placé dans notre vie et que ta parole coupe dans notre vie. Accorde-nous de l'humilité afin que nous puissions l'accepter et de te permettre de travailler dans notre vie, de nous nettoyer, de maudire le péché afin qu'il meurs comme ce figuier que tu as maudit. Afin que toutes les choses, les vieilles choses passent et se séparent et que toutes choses soient renouvelées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions cela. Amen.